ce matin, j'ai réfléchi pour la parole, je me suis dit que ce serait intéressant de poursuivre la série de prédications que j'avais commencé il y a quelques mois dans les actes que nous avons vus jusqu'à maintenant. La manifestation de Saint-Esprit, nous avons vu pas mal de choses, hein, de ce qui se passe, les persécutions par exemple de l'église primitive, etc. Nous avons vu aussi, nous avons effleuré l'histoire d'Ananias et Saphira. Et là maintenant, nous allons voir dans les actes chapitre 6, les sept premiers versets. C'est vrai que dans le passé, enfin plutôt avec les autres prédications, nous avons pu voir que l'Église qui est née avec beaucoup d'euphorie, de manifestation du Saint-Esprit, de miracles, nous avons vu vraiment que voilà, l'Église s'est propagée, mais a augmenté en nombre aussi, avec juste une seule prédication. Nous avons pu voir 3000 personnes qui se sont converties, même voir 5000 personnes. Donc il y a eu cette euphorie de l'augmentation de l'Église, mais par contre, nous avons vu aussi que l'Église n'était pas parfaite. Il y a eu des problèmes de désobéissance, comme nous avons pu voir avec l'histoire de Saphira, Ananias et Saphira. Mais aussi, l'Église a connu pas mal de problèmes de persécution, notamment par les religieux de l'époque qui ont pu persécuter, même mettre en prison certains disciples, etc. Là, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que dans cette église primitive, il y avait aussi quelques conflits relationnels. Nous sommes donc dans les premiers temps de l'église à Jérusalem. Les apôtres avaient prêché activement l'évangile dans la ville et les fruits apparaissaient bien, assez vite même. L'église a pu grandir, ce qui a amené les apôtres à revoir aussi leur organisation. Imaginez un petit peu dans l'église, dans cette église de Vendeuvre. Là, on est normalement une bonne centaine. Imaginez tout à coup venir 2000 personnes. Juste imaginez. Qu'est-ce que vous allez faire, hein? On va grandir. On va agrandir l'église. Ou peut-être faire comme les Coréens, c'est-à-dire faire 10 cultes par dimanche. Hein? Ça demande une réorganisation. Et c'est ce qui aurait dû faire, devait se faire là-bas. D'abord, je vais vous lire les sept premiers versets dans les Actes, chapitre 6. Voilà, je commence la lecture. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, on appelle ça Procor, moi je préfère prononcer Procor, Nicanor, Timon, Parnénas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voilà, jusqu'ici notre lecture. Quand on dit l'Église primitive, on a tendance à idéaliser cette Église, non? Oui, quand même. Quand on pense à l'Église primitive, voilà, ça c'est le début de l'histoire. Il y avait vraiment la plénitude de Saint-Esprit qui descend, et il y a des gens qui prêchent, et il y a des milliers de personnes qui se convertissent, des miracles qui se produisent, Et donc on se dit, en fait, on a tendance à idéaliser cette église, mais malheureusement, ce n'était pas aussi mature comme église. Il y avait un conflit relationnel. Même s'il y avait, même s'ils étaient des méga-churches, 5000 personnes, c'est quand même un méga-church, gérer cette église devenait de plus en plus difficile. Et donc, pour voir ce problème, je vous invite à relire le premier verset. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Apparemment, chaque jour, dans cette église primitive, on distribuait de la nourriture ou des choses, des besoins quotidiens aux pauvres. Et il y avait un conflit entre les hellénistes et les Hébreux. Alors, qui sont les hellénistes? Ce sont des Juifs venus d'ailleurs, des étrangers. On peut dire les Français qui habitants, je ne sais pas, aux États-Unis, qui sont revenus vivre, s'installer, par exemple, ici à Nancy. Et puis, où on peut même imaginer ou comparer même les étrangers qui sont venus. Mais ici, ce sont des Juifs, les Juifs hellénistes, c'est-à-dire les Juifs qui sont nés, comment ? Parlant grec. Les Juifs grecs et les Hébreux sont des Juifs qui ont toujours vécu à la Palestine. Donc, on les appelle les Hébreux. Et là, on voit qu'il y avait une certaine discrimination entre ces deux peuples, alors qu'ils sont de la même peuple. On peut dire que, voilà, ils étaient tous Juifs, mais il y avait ce problème de discrimination. Alors, pour quelle raison ? À votre avis, c'est quoi ce problème? On est peu nombreux ce matin, donc vous pouvez répondre plus librement. Pour une fois, on est peu nombreux. Ouais. C'est quoi les problèmes? La jalousie. Oui, après, il y avait aussi des sentiments d'injustice. Parce qu'ils se sont dit, nous, on a toujours versé de l'argent pour les pauvres. Eux, ils viennent d'ailleurs et ils viennent y profiter, cet argent que nous avons versé. Il y a ça aussi. Et puis, après, la différence de culture, etc. Cependant, qu'est-ce que dit la Bible déjà dans l'Ancien Testament? Dans Deutéronome, il est dit que s'il y a chez toi quelques pauvres d'entre tes frères dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère pauvre. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Voilà ce qui est écrit dans Deutéronome 15. Et puis même dans d'autres versets, on voit bien dans l'Ancien Testament plein de versets qui parlent qu'il faut aider les pauvres, les étrangers, etc. Et d'ailleurs, nous voyons que chez les Juifs, à l'époque, ils aidaient régulièrement les étrangers, mais aussi les veuves, etc., qui sont de passage. Dans l'Église même, ils nourrissaient à chaque jour, en tout cas ceux qui avaient dans le besoin, et puis même ils accueillaient des étrangers, des voyageurs, etc. Si on regarde un petit peu la culture de Juifs de l'époque, un dixième était donné au temple pour l'utilisation. Chaque jour, vous savez, dans le temple, il y avait des sacrifices qui se pratiquaient matin et soir. Et puis, il devait aussi entretenir les prêtres. Tout cela avec un dixième qu'il donnait. Et ensuite, il y avait aussi d'autres un dixième ou encore 3% qui étaient donnés aussi pour l'aumône, pour les pauvres, mais aussi pour préparer aussi leur voyage pour le pèlerinage. Enfin, bref. Donc, en voyant arriver ces, entre guillemets, étrangers, grecs, parlant grec, profiter un petit peu de ce qu'ils avaient déjà cotisé, je pense qu'il y avait aussi une certaine malaise, et puis, parce que, voilà, il y avait une certaine différence de culture. Comment résoudre ce problème? là, on voit bien qu'ils ont voulu donc temporiser. Mais vous savez que même Jésus aussi avait reçu, avait reçu une certaine question en disant que, voilà Jésus, j'ai un petit problème avec un problème de partage. Dans Luc 12, il y avait un riche qui était venu poser cette question. Alors, dans 12, 13, il est dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, Jésus, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Donc apparemment, il y avait un problème d'héritage entre les deux frères. Est-ce que rappelez-vous ce que Jésus leur a dit? Il leur a pas parlé comment résoudre ce problème. Il a dit tout d'abord que « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Et là, il parle et il dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Donc, on n'est pas dépendant de nos biens. Il se rappelle que l'avarice n'est pas bien, et puis il donne un exemple de riche insensé. Donc, au lieu de donner une réponse claire en disant que, voilà, il faut faire ceci ou cela pour le partage, non, il ne dit pas cela. Il donne un parabole en disant que, voilà, il y avait un riche insensé. Les terres avaient beaucoup rapporté, et puis il se raisonnait lui-même en disant que, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces récoltes que je viens de recevoir, je viens d'avoir? Je n'ai pas de place pour garder ma récolte. Je vais abattre mes greniers, mes anciens greniers, et j'en bâtirai de plus grands. Et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et puis, je vais profiter maximum de ce bien. Il a dit aussi que, voilà, je mangerai, je buverai et je me réjouirai de cette... c'est comme si j'ai pas obligé de, je suis plus obligé de travailler. Et là, Jésus raconte encore, en parlant de cette parabole, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée ce que tu as préparé, pour qui ce sera? Tout ce que tu as préparé, ce sera futile quand ton âme sera élevée, enlevée. Et donc, en relisant cet exemple, cette parabole, ça m'a rappelé aussi dans mon ministère, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues me voir en disant « Pasteur, j'ai un problème d'héritage ». Je ne sais pas si vous avez eu ça dans vos entourages, oui, non? J'espère que non. Mais en Alsace, donc, j'ai eu plusieurs fois des demandes comme ça en disant que nous avons un problème de partage dans mon église. Je connaissais bien les enfants, ils étaient super, des bons chrétiens. Je connaissais aussi bien les parents, ils étaient aussi des bons chrétiens. Je me suis dit, comme ils sont tous des bons chrétiens, pratiquants, etc., j'aurais pas de problème de partage. Je suis allé donc les voir. Il y avait des mécontents, il y avait des gens qui n'avaient aucun avis. Finalement, vous savez que c'était vraiment la période la plus difficile pour moi dans mon ministère. Parce que vraiment, être intermédiaire, médiateur sur ces problèmes d'argent, c'est vraiment difficile. C'est très, très délicat. Enfin, bref, il y avait ce problème délicat, assez délicat aussi entre pour les partages des biens à l'époque de primitive, à l'époque de l'Église primitive. Oui, c'est vrai que de plus en plus, il y avait plus de personnes qui étaient là et nourrir chaque jour toutes les personnes devenait peut-être difficile et que matériellement, enfin, au côté bien matériel, ça devenait peut-être plus difficile financièrement aussi. Du coup, ils ont dû privilégier ceux qui étaient déjà avant sur place. Et donc, la solution qu'ils ont trouvée, c'est les douze disciples de Jésus-Christ convoquèrent, on parle des douze, c'était onze, les onze disciples, en enlevant Judas Iscariote, et on a rajouté bien sûr Matthias, qui était sûrement un des 70. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dire « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Voilà. C'est vrai qu'il y a tellement de problèmes dans cette Église, on ne peut pas mettre en priorité tous ces conflits. La priorité pour nous de l'Église, c'est quand même prêcher la parole. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Voilà un peu, les 12 disciples donnent la priorité à la parole, à l'enseignement, etc. Et pour régler ce problème de conflit relationnel, ils nomment 7 personnes qui sont pleins d'Esprit Saint, de sagesse, et qui apportent, qui rendent un bon témoignage auprès de tous ces entourages. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, un événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament, avec Moïse, oui, pour nommer des responsables. Hein. Pour vous rappeler, ça s'est passé dans Exode 18. Après la sortie d'Égypte, Moïse, voilà, il a réussi à faire sortir tout l'Israël avec lui. Et donc là, il est dans le désert. Et Jéthro, donc le sacrificateur et le beau-père de Moïse, apprend, voilà, tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Et il apprend aussi que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Là, ce qu'il fait, comme il a su que Moïse a réussi à faire sortir d'Israël d'Égypte, il va aller le rejoindre avec la femme de Moïse et ses enfants. Il arrive, Jéthro, donc le beau-père, qui a une grande expérience de la vie, et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Moïse s'assis pour juger le peuple depuis le matin jusqu'au soir. Et là, il dit, mais c'est pas bon ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais, hein, au lieu de déléguer le travail. Et là, il dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, donc pas de soudoiement. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Et là, après, toi, tu pourras avoir un certain avis, de jugement aussi, pour des choses beaucoup plus importantes. Tu peux vraiment déléguer, délègue. Ne sois pas celui qui fait tout seul. Donc, c'est un mauvais exemple de prêcher, de présider ce matin. Et jouer à la guitare, ça va pas. Je devrais déléguer un peu plus pour que vraiment les gens puissent aussi s'intégrer et même s'investir. Et c'est ce que Jéthro est en train de dire à Moïse. C'est pas bon que tu fasses tout seul, que tu délègues un peu plus. Et c'est quand même intéressant, les qualités qu'il a dit et ressemblent quand même par rapport à ce que voilà, les 12 avaient dit aussi. Dans l'Ancien Testament, il est dit « Choisis des hommes capables, craignant Dieu ». Donc déjà, il faut qu'ils aient la capacité, des dons qui correspondent à certaines tâches. Et craignant Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que nous avons des dons que nous pouvons tout faire. Surtout, il faut que cette personne soit quelqu'un qui craint Dieu. Des hommes intègres dans tout le domaine. Et puis, ennemis de la cupidité. Humble, mais aussi, craignant Dieu, donc sûrement ennemis de la cupidité. Et dans le Nouveau Testament, les 12 parlent, celui qui rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Tout ce qui a été dit comme qualité dans l'Ancien Testament, c'est le résultat de celui qui est plein d'Esprit Saint et de sagesse et qui rend un bon témoignage. Rend un bon témoignage, c'est le résultat de la plénitude de l'Esprit Saint et de sagesse. Donc le but des 12 était la croissance et la communauté dans la foi. C'est pas vraiment de bien nourrir tous les pauvres, non, c'est pas ça du tout. D'abord, vraiment former une communauté dans la foi et dans l'amour, et aussi dans l'amour du prochain. et le partage des biens, de nourriture, était juste le résultat de toute cette chose. Ainsi, ils ont pu choisir des responsables en mettant en valeur les dons de chacun. Ainsi, donc, les disciples ont pu prêcher, ont pu prier davantage pour la communauté. D'ailleurs, Paul aussi avait demandé cette prière. Il a dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'Évangile. » Il a dit « Oui, priez pour moi pour que je puisse recevoir d'abord la parole et aussi puisse ouvrir la bouche pour parler de cette bonne nouvelle. » Si on ne reçoit pas et qu'on ouvre la bouche, qu'est-ce qui se passe? On transmet que des choses vaines, n'est-ce pas? Il fallait qu'il reçoive quelque chose pour pouvoir transmettre. Et donc le désir de Paul était quand même de recevoir pour pouvoir prêcher et prier, enseigner et prier. Je vais aussi dire, enfin on peut aussi voir les sept personnes qu'il avait relevées, les sept personnes qui ont été donc mises à disposition pour le service aux tables. Je lis. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi. Voilà donc le premier homme, hein, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Quelqu'un qui était complètement, voilà, qui avait une foi ferme, et l'Esprit de Dieu qui était en lui. Et il était aussi un très bon enseignant, puisque nous allons voir dans le chapitre 7, lorsqu'il a été roué de coups, bah là, il fait une prédication devant tout le monde. Il sera, en tout cas, d'ailleurs, le premier martyr chrétien, mort à cause de l'Évangile, à cause de l'annonce de la parole de Dieu. Et là, il prêche, mais vraiment de manière étonnante, avec beaucoup de connaissances. Donc ce premier martyr, Étienne, était un des sept responsables. Ensuite, nous voyons Philippe, qui était aussi un des sept. Alors, qui est Philippe? Dans le Nouveau Testament, il y a deux Philippe. D'abord, le premier, c'est un des douze disciples. Il faisait partie des douze. Voilà, celui qui a calculé, par exemple, combien d'argent était nécessaire pour nourrir 5000 personnes, par exemple. Hein. Il était assez... voilà. Ça, c'est Philippe apôtre. Mais le Philippe qu'on est en train de parler, c'est le Philippe l'évangéliste. On le voit dans Actes chapitre 8. Voilà, il avait l'évangélisation à cœur, si bien qu'au moment de la grande persécution, mentionnée donc dans les Actes chapitre 8, il a quitté Jérusalem pour devenir évangéliste en Samarie. Et après avoir créé une église en Samarie, il a été utilisé par le Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile à un eunuque égyptien, éthiopien. Ça, vous connaissez cet épisode, sûrement. Et puis, nous le voyons aussi dans les Actes chapitre 21, où Philippe est à nouveau mentionné 20 ans après, toujours à Césarée, et puis... un jour, Paul et Luc sont en train d'évangéliser. Ils sont de passage pour être hébergés dans sa maison. Donc, il avait accueilli les apôtres chez lui, lui en tant qu'évangéliste à Césarée. Et Philippe avait aussi quatre filles non mariées, mais qui avaient toutes le don de prophétie. On voit vraiment bien Philippe qui avait aussi une grande influence, qui a marqué une grande influence auprès de ses enfants, qui sont devenus aussi des prophétesses. Et puis nous voyons d'autres responsables. Procore. Alors Procore, Procore, il était donc secrétaire de Jean, de l'apôtre Jean. Donc vous savez que l'écriture de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ou l'Apocalypse, toutes ces choses que Jean a pu écrire, bah, c'est son secrétaire qui l'a aidé à écrire. Procore. Nocanor, Timon, Parménas. Pas très bien connu, on ne le voit pas, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont devenu, qu'est-ce qu'ils ont fait. Nicolas, prosélyte d'Antioche, donc on sait juste qu'il était un, prosélyte d'Antioche, mais qu'il a beaucoup travaillé à Antioche même. Et voilà, pas plus non plus. Donc ce qui est le plus important, c'est que vous pouvez retenir le nom de, parmi les 7 responsables, Étienne, Philippe, peut-être aussi Procor. Et ce qui est encore étonnant, c'est que là, ils sont là pour régler le problème entre les Hébreux et les Hellénistes. Est-ce que vous avez remarqué leur nom? Ce n'est pas un nom hébreu, c'est un nom helléniste. Hein? On peut penser qu'ils étaient plutôt tendance proche avec toutes ces personnes grecques, mais voilà, ils ont eu cette liberté pour les nommer et aussi, bon, selon aussi leur capacité, pour pouvoir gérer cette question. Au verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voilà. Donc avec ce service, avec cette nouvelle organisation, nous voyons ici que l'Église primitive grandissait de plus en plus et que la bonne nouvelle avait même touché des sacrificateurs de l'époque. Je vais conclure. Les descriptions de l'Église primitive nous donnent envie d'être membre de cette Église idéale au début. En réalité, l'Église primitive avait déjà aussi ses problèmes à eux, et aucune Église n'a jamais été et ne sera jamais parfaite jusqu'à ce que le Christ revienne un jour. Oui, l'Église ne sera jamais parfaite. Comme l'Église primitive augmente en nombre, ses besoins augmentaient aussi, et une nécessité était d'organiser la distribution de la nourriture aux pauvres. Puis les apôtres avaient voulu vraiment se concentrer davantage sur la prédication et sur la prière. Et c'est ainsi qu'ils ont pu choisir donc des aides, 7 personnes, pour gérer l'aide matérielle et pour la distribution de la nourriture. Chaque personne a un rôle vraiment capital. Et pour commencer cette année 2023, si vous occupez un poste important ou de dirigeant dans cette église, ou vous débordez de responsabilités, cherchez à connaître les aptitudes que Dieu vous a données et quelles sont ses priorités. On ne peut pas non plus tout faire à la fois, mais aussi mettre la priorité dans vos responsabilités. Si vous n'assumez pas de responsabilités, vous avez des dons que Dieu peut utiliser dans un ou dans d'autres domaines de ministère dans l'église. Mettez vraiment, réfléchissez où vous pouvez vraiment vous engager davantage, vos dons, à son service. Cette année, nous allons reprendre le parcours Alpha. Vous savez ce que c'est le parcours Alpha? Le parcours Alpha, c'est une sorte de formation où les non-chrétiens peuvent venir, où les jeunes chrétiens qui ne connaissent pas grand-chose peuvent venir manger un repas une fois par semaine et discuter ensemble. Donc on aura besoin plein de bénévoles. Déjà, quelqu'un pour cuisiner, quelqu'un pour peut-être animer la séance, quelqu'un pour prier, etc. Et voilà, pourquoi ne pas s'engager dans ce genre de tâches? Voilà, ces tâches, nous avons vu aussi qu'il y avait des problèmes de tâches administratives. Et c'est vrai que cette tâche administrative ne doit pas être prise à la légère. Et que ces critères pour le choix de ces futurs responsables sont aussi très élevés. Ils doivent être sages, bien respectés et remplis de Saint-Esprit. Que nous puissions aussi avoir un discernement pour prendre des bons responsables. Veillons vraiment à placer des personnes spirituellement mûres et sages à la tête de notre Église. Il est nécessaire pour la croissance de tous que, voilà, qu'on puisse aussi surtout mettre la priorité à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, à accompagner les frères et sœurs, aider chacun à trouver sa place, etc., planifier des activités, etc. C'est un défi à relever pour cette année 2023, et donc j'encourage à chacun à faire ce travail de discernement de nos dons pour repartir, qui est aussi un grand défi. Une saine organisation inspirée de celle mise en place par les apôtres doit nous aider à équilibrer les choses pour le bien du corps et la croissance de tous. Voilà, nous formons un seul corps et comment bien articuler toutes ces choses. En effet, Paul dit, quand chaque partie fait son travail, dit Paul aux Éphésiens, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour, dans Éphésiens 4:16. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que nous puissions vraiment former un seul corps pour pouvoir aussi avancer avec les dons qu'il nous a donnés. Amen. Je vous invite à la prière. C'est vrai que dans l'Église, il y a beaucoup de... Enfin, chacun peut aussi avoir une certaine responsabilité pour te servir, Seigneur. Et tu as aussi donné à chacun un don d'enseignement, un don en musique, un don d'hospitalité, un don d'écoute, un don de prière, un don où nous pouvons accueillir, Seigneur, les gens. Que nous puissions vraiment, Seigneur, discerner ce que toi tu veux pour pouvoir nous impliquer davantage dans cette communauté, mais aussi dans là où tu nous as placés aussi. Pas seulement à l'église, mais aussi dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. Aide-nous vraiment à voir ton plan pour cette année 2023. Oui, tu nous as appelés à être un seul corps et ce corps grandit et se construit lui-même dans l'amour et que vraiment, oui, nous puissions aussi agir dans l'amour. Merci encore pour cet exemple où tu as nommé des responsables pour gérer des problèmes conflictuels. Merci aussi parce que notre Église de Vendeuvre, non seulement nous privilégions, bien sûr, l'annonce de la parole de Dieu, mais aussi de prière, mais nous voulons aussi aider ceux qui sont ceux qui sont les plus démunis. Et nous savons aussi que ce ne sont pas des riches qui doivent aider les plus démunis, mais les moins démunis qui aident aussi, qui peuvent aider les plus démunis. Seigneur, merci pour ce système de banque alimentaire que nous avons mis en place dans cette église, que cela puisse aussi fonctionner davantage pour pourvoir aux besoins de certains. Mais aussi, Seigneur, voilà, tu connais aussi le vestiaire, tu connais tout ce que nous avons pu mettre, Seigneur, pour aider les gens qui sont dans la pauvreté, que nous puissions faire avec beaucoup de joie. Et Seigneur, que ce soit aussi utile pour l'avancement de ton royaume. Pour cela, Seigneur, oui, donne-nous davantage l'amour du prochain pour que cette activité prospère, mais aussi, Seigneur, avec les différentes tâches responsables qui sont nommées, nous voulons encore que cette Église avance. Oui, Seigneur, donne-nous vraiment un bon discernement pour pouvoir mettre les personnes là où ils doivent être. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.